Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, l'Irak qui connaît une nouvelle flambée de violence. Hier soir, une dizaine de manifestants ont été tués par des hommes armés à Bagdad. C'est l'engrenage. Nous retrouverons notre correspondante sur place dès le début de ce journal. Nous irons aussi à Londres où un dernier débat télévisé hier soir a mis face à face le Premier ministre sortant Boris Johnson et son adversaire Jeremy Corbyn. À moins d'une semaine des élections, Johnson a martelé sa volonté de réaliser le Brexit. Il est en tête des sondages. Nous reviendrons aussi sur le déplacement d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne en Éthiopie. Un déplacement stratégique, nous le verrons. Et puis retour en fin de journal sur le discours du pape aux ONG d'inspiration catholique qu'il a reçu ce matin au Vatican. Il les invitait à toujours placer la dignité de l'homme au centre de leur action.
Le journal. Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Je vous le disais donc en titre, situation très dangereuse en Irak qui a connu une nouvelle explosion de violence hier lorsque des hommes armés non identifiés ont attaqué un parking de la capitale occupé depuis plusieurs semaines par des manifestants. Ils ont tiré à balles réelles sur les contestataires. Bilan 12 morts. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
Vendredi soir, profitant de l'obscurité, des hommes armés et masqués à bord d'un pick-up ont tiré sur des protestataires qui occupaient un grand parking de plusieurs étages aux abords de la place Tahrir à Bagdad, des tirs faisant de nombreux morts et blessés et poussant les rescapés à fuir. Ces hommes non identifiés ont ensuite incendié le bâtiment. Un chaos à l'heure où se poursuivent les tractations entre blocs politiques visant à trouver un remplaçant au Premier ministre démissionnaire Adel Abdelmahdi. Le plus haut dignitaire chiite d'Irak a demandé à ce que cette nomination soit le choix des Irakiens et non le fruit d'une ingérence étrangère. Mais tôt ce samedi, alors que les Irakiens affluaient dans la ville sainte chiite de Najaf pour enterrer leurs morts, un drone a largué une bombe sur la maison du très influent leader chiite Moqtada al-Sadr, absent de Najaf. Cette flambée de violence, conséquence directe de la guerre régionale que se livrent États-Unis et Iran, menace de dégénérer en guerre civile, ce qui pourrait mener à 10 ou 20 ans de combats sanglants, prévient le politologue Raad al-Hashemi. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
Reprise ce samedi à Doha, au Qatar, des négociations de paix entre États-Unis et talibans. Selon une source proche du dossier cité par l'AFP, ces discussions sont centrées sur la réduction des violences pour mener des négociations inter-afghanes et à un cessez-le-feu. Il y a 3 mois, le président Trump avait brutalement mis fin au cycle des pourparlers après la mort d'un soldat américain lors d'un attentat à Kaboul imputé aux talibans. La situation dans la péninsule de Corée est grave. C'est le constat émis à l'unisson par le président américain et son homologue sud-coréen. Donald Trump et Moon Jae-in se sont parlé au téléphone hier et ont convenu qu'il fallait relancer le dialogue avec Pyongyang sur la dénucléarisation. Dialogue au point mort depuis le sommet de Hanoï en février dernier. La Corée du Nord a donné à Washington jusqu'à fin 2019, à la fin de l'année donc, pour faire de nouvelles propositions. Sinon, elle pourrait se retirer purement et simplement des discussions. Après 2 semaines de vote, c'est officiellement la fin ce samedi du référendum sur l'indépendance de l'île de Bougainville qui fait actuellement partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le oui l'emporterait dans les sondages, mais les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. En cas d'indépendance, la petite île pourrait devenir un nouvel enjeu des luttes d'influence entre puissances régionales comme la Chine ou l'Australie, eu égard à ses grandes richesses en cuivre. Premier déplacement officiel hors de l'Union européenne pour Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne qui a pris ses fonctions le 1er décembre dernier, est arrivée ce matin en Éthiopie. Un déplacement stratégique auprès des plus hautes autorités du pays, mais aussi celle de l'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba. Olivier Bonnel.
Le continent africain et l'Union africaine comptent pour l'Union européenne et la Commission. C'est par ces mots que la nouvelle présidente de l'exécutif européen a commenté sa rencontre avec le Tchadien Moussa Faki Mahamat, le plus haut responsable de l'Union africaine. En se rendant en Éthiopie, Ursula von der Leyen a voulu envoyer un message de proximité avec l'Afrique, évoquer surtout les questions stratégiques que sont les dossiers migratoires et sécuritaires. La question climatique était également au menu des discussions. Vous, ici sur le continent africain, comprenez mieux que quiconque le changement climatique, a commenté l'Allemande, sans réponse à tous ces défis. Ursula von der Leyen a expliqué qu'elle se déplaçait en Éthiopie avant tout pour écouter. L'Union européenne reste le principal partenaire commercial de l'Afrique, sa première source d'investissement et d'aide au développement. elle a toujours aussi appuyé les opérations de paix et de sécurité de l'Union africaine. La présidente de la commission s'est ensuite entretenue avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le félicitant pour son prix Nobel dû à la paix avec l'Érythrée voisine. L'Éthiopie a donné de l'espoir à tout le continent, a-t-elle commenté. Des accords d'aide financière européenne à Addis Abeba pour 170 millions d'euros ont par ailleurs été signés.
Olivier Bonnel. Un point sur la grève en France. La mobilisation est toujours au rendez-vous ce samedi. L'on prévoit de notables perturbations dans les transports pour les prochains jours. La contestation est partie pour durer, préviennent les syndicats qui poursuivent un objectif, le retrait de la réforme des retraites qui sera présentée par ailleurs mercredi, au lendemain d'une nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle. De l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, c'est la dernière ligne droite avant les élections législatives du 12 décembre. Hier, un débat télévisé a eu lieu entre le Premier ministre sortant Boris Johnson et son rival travailliste Jeremy Corbyn. Une joute oratoire où il a été surtout question du Brexit, de la santé et des services publics. Le débat a été favorable à Boris Johnson si l'on en croit le verdict du public, 52% d'opinion favorable, alors que les conservateurs sont crédités de 9 points d'avance dans les sondages. À Londres, Jean Jaffré.
Boris Johnson, que son équipe de campagne protège des médias, ne s'est pas cette fois dérobé. Très bien briefé avant le face-à-face, il a sans surprise martelé son slogan « Get Brexit Done ». En clair, donnez-moi une majorité au Parlement et je ferai voter avant Noël l'accord que j'ai signé à Bruxelles. Mais le leader travailliste a souligné qu'en réalité, il resterait encore à négocier les futures relations avec les partenaires européens et qu'un accord de libre-échange avec les États-Unis prendrait des années. Et quand le Premier ministre était mis en difficulté, notamment sur la promesse de créer 50 000 postes d'infirmières ou sur son rapport avec la vérité, après un bref moment d'hésitation, Boris Johnson ne répondait pas vraiment à la question, resservait son slogan et contre-attaquait en reprochant à Corbyn d'être neutre sur le Brexit et donc de n'être pas un vrai leader. Presque toutes les interventions de Jeremy Corbyn sur les inégalités, l'austérité, ses effets sur l'école, la santé, la sécurité des citoyens ont été applaudis par les invités dans le studio. Mais les questions de défense, de politique étrangère ainsi que le réchauffement climatique n'ont pas été abordées. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
L'Algérie votera le même jour que les Britanniques pour une élection présidentielle cette fois. Et hier soir aussi, les 5 candidats en lice se sont retrouvés pour un débat télévisé. C'est inédit. En revanche, pas de contradictions passionnées ni de discussions animées. Les candidats se sont contentés de présenter leur programme. Dans la journée, une grande manifestation a rassemblé des milliers d'Algériens dans les rues pour redire leur opposition à la tenue de cette élection. L'Église est dans ce monde, elle vit et agit. Pour lui, le message du Concile Vatican II a résonné ce matin dans le discours du pape François. Le Saint-Père recevait en salle du consistoire du Palais Apostolique une centaine de participants au 4e forum des ONG d'inspiration catholique. Une rencontre internationale qui vient de s'achever ce 7 décembre à Rome. Le pape a donc exhorté toutes ces organisations à placer la dignité de l'homme au centre de toutes leurs œuvres. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Le pape François a mentionné 3 aspects cruciaux à l'engagement des ONG d'inspiration catholique ancrées dans la foi. L'éducation, les moyens disposés et l'esprit d'équipe. En ce qui concerne le premier aspect, François estime qu'au regard de la complexité du monde et la crise anthropologique que nous traversons, il est vital d'apporter un témoignage de vie cohérent, fondé positivement sur la dignité humaine. Et cela s'apprend. Il faut une grande foi, une grande confiance, mais aussi une préparation professionnelle adéquate pour acquérir cette perspective chrétienne. Sur la question des moyens, le Saint-Père a rappelé combien l'Église parvenait à faire de grandes œuvres avec de modestes moyens. Halte donc au découragement. Et troisième point de cette feuille de route aux ONG vient la collaboration, la marche commune vers une même mission, autrement dit la synodalité, non moins importante à notre époque. En effet, relève le pape, notre monde requiert une audace et une imagination nouvelle pour favoriser la culture de la rencontre, de même que tant d'autres voies de dialogue et de coopération.
Delphine Allaire, le pape François qui a reçu également ce matin les membres de l'Association catholique des propriétaires de cinéma, créée il y a 70 ans. Dans son discours, il leur a confié 3 missions à respecter, vivre en communion, être créatif et être visionnaire. Et puis toujours le Vatican et cette grande exposition de crèches qui s'ouvre dès demain dans le siège de la lettre apostolique du pape François, Admirabile Signum. Plus de 130 crèches provenant de 30 pays seront ainsi exposées en salle P10 à quelques mètres de la place Saint-Pierre. L'événement sera donc inauguré demain, la solennité de l'Immaculée Conception par Mgr Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation et l'ambassadeur de Hongrie près le Saint-Siège. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez de nouveau rendez-vous avec l'actualité vaticane et internationale à 18h ce soir. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée.